VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Tournée du pape en Afrique, au Kenya, le pape François a dénoncé aujourd'hui ce qu'il appelle l'injustice atroce que représentent les grands bidonvilles des mégapoles africaines, fruit de la corruption et de l'accaparement au profit de quelques-uns seulement. Le souverain pontife s'exprimait à l'église de Saint-Joseph, travailleur, tenue par les jésuites, dans l'immense bidonville pollué de Kangemi, à Nairobi, où s'entassent plus de 100 000 personnes. François est au dernier jour de sa visite au Kenya, prochaine étape l'Ouganda, deuxième escale de son voyage en Afrique. En Ouganda même, le Parlement a adopté une loi controversée sur les ONG à quelques heures de l'arrivée du pape François dans le pays. Les associations de défense des droits humains dénoncent cette loi qui, disent-elles, entrave le travail des ONG. Nouvelle vague d'assassinats en Centrafrique selon Human Rights Watch qui tire la sonnette d'alarme à quelques jours de la visite du pape. L'organisation de défense des droits humains basée à New York interpelle la communauté internationale pour que le passage du souverain pontife à Bangui favorise l'avènement de la paix. Pour plus de détails sur ce dossier, écoutons Louis Mudge qui est chercheur de la division Afrique de Human Rights Watch à Nairobi.
Toujours, c'est les civils qui souffrent, et ça compris des gens âgés, des gens dans la situation d'handicapés qui ne peuvent pas fuir. Et il y a aussi des femmes et des enfants qui compris les victimes. C'est toujours les civils qui sont en train d'essayer de prendre fuite pour aller dans un site de déplacement qui sont attrapés par un groupe ou bien par d'autres. D'ailleurs, nous avons compté plus de 1000 maisons qui viennent d'être brûlées depuis le 26 septembre. Et ça, le fait que les maisons continuent d'être brûlées, ça sera très difficile d'établir un nouveau de réconciliation lorsque les maisons sont en train d'être détruites.
Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. Crise au Burundi, l'une des quatre personnalités burundaises frappées par les sanctions du président américain Barack Obama pour leur rôle dans la crise dans le pays réagit. Par le biais de l'un de ses avocats, le général Cyril Ndayi Rukiye déclare que sa participation au mouvement de mai dernier, à savoir la tentative de coup d'état contre le président Pierre Nkurunziza, est justifiée. Écoutons son avocat, maître Bernard Menguin.
L'acte qu'il a posé, c'est un acte qui est le résultat d'un choix de valeur. Et il a appliqué ce que nous appelons, nous juristes, la théorie de l'état de nécessité. C'est-à-dire qu'il a dû faire le choix entre deux valeurs en optant pour la valeur qui lui paraissait la valeur supérieure, le traité d'Arusha, la Constitution. Eh bien, il voudrait soumettre à un tribunal libre et indépendant l'exposé de cette question.
En attendant, il croupit dans une prison. Soyons réalistes, vous croyez qu'il aura un procès équitable ?
Un avocat doit lutter jusqu'au bout pour que ce procès équitable survienne.
Maître Bernard Menguin, avocat du général Cyril Ndayi Rukiye. Maître Menguin était au micro de Chérubin Dorsil. Gabon, plusieurs hauts fonctionnaires ont été entendus ou placés en garde à vue cette semaine dans une affaire de trafic de bois précieux. Parmi eux, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, Nelson Messon, devenu conseiller politique du président Ali Bongo Ondimba depuis le remaniement ministériel de septembre. Monsieur Messon a été entendu par les enquêteurs dans son bureau de la présidence de la République. Le tribunal spécial récemment créé pour traiter notamment des affaires de criminalité financière et phonique a ouvert cette semaine une enquête préliminaire liée à l'exploitation illégale de Kevasingo, une essence de bois rare qui se vend cher en Asie. C'est ce qu'a affirmé une source sous couvert d'anonymat.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre le terrorisme, Mali. Arrestation dans la banlieue de Bamako de deux complices dans l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu. Les suspects ont été remis à la justice afin de faciliter le reste de l'enquête. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Depuis l'attentat de l'hôtel Radisson, les forces de sécurité étaient à pied d'œuvre. Elles menaient des patrouilles de jour comme de nuit partout à Bamako et dans les environs. C'est ainsi que deux présumés complices des auteurs de l'attentat perpétré à l'hôtel Radisson Blu ont été arrêtés par les forces spéciales maliennes ce jeudi. Cela grâce à la coordination des différentes forces de renseignement maliens et grâce à la collaboration avec certaines bonnes volontés. Tous ceux-ci ont permis d'appréhender Seydou Djeptile et Adama Maïga, respectivement à Missabougou et à Sangarebougou, Marseille. Selon des sources sécuritaires, les auditions des deux suspects qui vont commencer doivent permettre d'apporter plus d'éclairage sur les motivations des auteurs de l'attentat terroriste, lequel acte a fait 22 morts. En tout cas, pour ce qui est de l'enquête, les armes de crime ont été remises à un service spécial d'éminissement afin de déterminer leur provenance. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger. 18 villageois ont été tués par des membres du groupe djihadiste à Wogom, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria. D'après les autorités locales citées par l'AFP, 13 personnes ont été tuées par balle, 3 autres ont été égorgées et 2 autres sont mortes calcinées dans l'incendie de leur maison. 11 personnes ont également été blessées. L'attaque s'est produite mercredi soir. Près de 100 habitations ont été brûlées. Les assaillants seraient venus du Nigeria. Et puis au Burkina Faso, plus que 72 heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans le cadre des scrutins présidentiels et législatifs de dimanche. L'heure est au dernier réglage pour en faire une réussite. Ces derniers jours, le balai citoyen est monté au créneau. Ce mouvement qui était à la pointe de la mobilisation qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré du pouvoir a maintenant dans les rues de la capitale une caravane dénommée « Je vote et je reste ». Plus de détails avec le correspondant à Ouagadougou, Issa Nampon.
Je vote et je reste. Plus qu'un projet, c'est un leitmotiv qui tient à cœur aux dirigeants de ce mouvement qui a été en pointe de l'insurrection populaire ayant chassé le président Blaise Compaoré du pouvoir et qui tient à une transparence totale du premier scrutin post-Compaoré. C'est dans un marché bondé que nous rencontrons le coordonnateur de la caravane, Rasmane Zinaba.
C'est d'inviter les populations à aller massivement dans les urnes et en cela, nous les invitons à sortir massivement et à aller voter. Voter, revenir à 18h à la fermeture des bureaux de vote pour assister au dépouillement, parce que c'est un droit consacré à chaque électeur et à chaque citoyen burkinabé.
Juchés sur un bus, mégaphone au vent, les animateurs du balai citoyen haranguent la population pour assurer leur pleine participation au processus électoral devant notamment aboutir à l'élection du futur président du Faso.
Nous sommes des cibles.
Nous sommes des sentinelles.
Qu'est-ce qu'on fait ?
On répond à la paix.
Pour le peuple.
Il va lutter contre l'impunité, il va lutter pour la justice et pour les pauvres aussi.
Ces tournées de sensibilisation et de veille citoyenne devront se poursuivre jusqu'à la période post-électorale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Bénin, à 3 mois de la présidentielle, le parti au pouvoir a fait choix de son candidat. C'est le Premier ministre béninois Lionel Zinzou qui a été désigné pour briguer le fauteuil qu'occupe le président Thomas Boniayi. Les précisions d'Anastasie Toudièche.
La désignation de Lionel Zinsou vient confirmer un soupçon affiché dès sa nomination en juin dernier au poste de chef du gouvernement. Il est en effet le dauphin de Thomas Boniayi, élu le 6 avril 2006, puis réélu en 2011. Lionel Zinsou portera l'étendard du parti au pouvoir, les forces Kori, pour un Bénin émergent, à la présidentielle du 28 février 2016. La nouvelle a été confirmée à l'AFP par Bida Nouhoum, député et porte-parole des FCBE. Lionel Zinsou a été choisi pour son expérience et sa capacité à poursuivre l'œuvre entamée par le président Boniayi, a précisé M. Nouhoum. Zinsou, 60 ans, est un banquier d'affaires franco-béninois, neveu de l'ex-président béninois Émile Derlin Zinsou. Son brillant parcours dans le monde des affaires comprend entre autres la direction de PAI Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement d'Europe, et la banque Rothschild. Au plan politique, Lionel Zinsou a été conseiller spécial auprès du président béninois de 2006 à 2011.
L'actualité dans le reste du monde pour terminer. La France a rendu aujourd'hui un hommage solennel et émouvant aux 130 morts et aux 350 blessés des attentats de Paris du 13 novembre revendiqués par le groupe État islamique. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État français, François Hollande. Quelques 2600 personnes, dont de nombreuses familles de victimes et aussi des blessés, ont participé à cette cérémonie nationale dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides où repose l'empereur Napoléon. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a par ailleurs pour la première fois envisagé aujourd'hui que des forces du régime syrien puissent être associées à la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Dans une déclaration à l'AFP, Laurent Fabius a précisé qu'une participation de l'armée syrienne dirigée par le président syrien Bachar al-Assad à la lutte contre l'EI ne peut se produire que dans le cadre d'une transition politique. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.